Lucien Leven, chapitre 24. Le pauvre sous-lieutenant était loin de prévoir l'étrange société qu'on lui préparait. Il avait pensé, avec beaucoup de finesse, qu'il ne devait se présenter chez Madame de Chastelet qu'après avoir demandé Monsieur le Marquis de Pontlevé. Et, pour être sûr de ne pas trouver le vieux marquis, il avait besoin de voir le marquis hors de son hôtel, qu'il quittait chaque jour vers les 3 heures pour se rendre au club Henri Cinquiste. À peine Leven vit-il le marquis passer sur la place d'armes que son cœur commença à battre avec force. Il vint frapper à la porte de l'hôtel. Il était tellement déconcerté qu'il parla avec respect à la vieille portière paralytique et put à peine trouver assez de voix pour s'en faire entendre. En montant au premier étage, ce fut avec une sorte de terreur qu'il regarda le grand escalier en pierre grise avec sa rampe de fer à dessins vernissés en noir et doré dans les endroits qui représentaient des fruits. Il arriva enfin à la porte de l'appartement occupé par Madame de Chastelet. En étendant la main vers la sonnette de laiton anglais, il désirait presque qu'on lui annonçât qu'elle était sortie. De sa vie, Leven n'avait été à ce point dominé par la peur. Il sonna. Le bruit des sonnettes, répondant aux divers étages, lui fit mal. On ouvrit enfin. Le domestique alla l'annoncer en le priant d'attendre dans le second salon, où il trouva Mademoiselle Bérard. Mademoiselle Bérard avait une ceinture formée d'un ruban vert fané. Il remarqua qu'elle n'était point en visite, mais établie comme pour rester. Cette vision acheva de le déconcerter. Il salua profondément et alla à l'autre extrémité du salon regarder attentivement une gravure. Madame de Chastelet parut après quelques minutes. Son teint était animé, sa contenance agitée. Elle alla prendre place sur un canapé tout près de Mademoiselle Bérard. Elle engagea Leven à s'asseoir. Jamais homme ne trouva moins de facilité à prendre place et à parcourir les formules ordinaires de politesse. Pendant qu'il prononçait, peu nettement, des paroles assez vulgaires, Madame de Chastelet était devenue excessivement pâle, sur quoi Mademoiselle Bérard mit ses lunettes pour les considérer. Leven promenait des yeux incertains de la charmante figure de Madame de Chastelet à ce petit visage jaune et luisant, dont le nez pointu, surchargé de lunettes d'or, était tourné vers lui. Même dans les moments les plus désagréables, tels qu'était, grâce à la prudence de Madame de Chastelet, cette première entrevue de deux êtres, le lendemain du jour où il s'était presque avoué qu'il s'aimait, il y avait au fond des traits de Madame de Chastelet une expression de bonheur simple, une facilité à être entraînée à un enthousiasme tendre. Leven fut sensible à cette expression si noble. Elle lui fit un peu oublier Mademoiselle Bérard. Il goûtait avec délice le vif plaisir de découvrir une nouvelle perfection dans la femme qu'il aimait. Ce sentiment rendit un peu de vie à son cœur. Il put respirer. Il commençait à sortir de l'abîme de désappointement où l'avait jeté la présence imprévue de Mademoiselle Bérard. Il restait toujours une grande difficulté à vaincre. Que dire? Et il fallait parler. Le silence, en se prolongeant, allait devenir une imprudence en présence de cette dévote si méchante. Mentir était affreux pour Leven. Cependant, il ne fallait pas que Mademoiselle Bérard pût répéter les mots dont Leven se serait servi. « Il fait un temps magnifique, madame, » dit-il enfin. La respiration lui manqua après cette terrible phrase. Il prit courage et bientôt put ajouter. « Et vous avez là une magnifique gravure de Morgan. » « Mon père l'aime beaucoup, monsieur. » Il l'a rapporté de Paris à son dernier voyage. Et ses yeux troublés cherchaient à ne pas se fixer sur ceux de Leven. Le comique de cette entrevue et ce qui la rendait humiliante pour l'intime conscience de Leven, c'est qu'il avait employé une nuit sans sommeil à préparer une douzaine de phrases charmantes, touchantes, peignant avec esprit, admirablement, l'état de son cœur. Il avait surtout songé à donner à l'expression de la simplicité et de la grâce, et à éviter avec soin tout ce qui aurait pu impliquer le plus faible rayon d'espérance. Après avoir parlé de la gravure de Morgan, « Le temps se passe, pensa-t-il, et je le perds dans ces pauvretés insignifiantes, comme si je ne voulais qu'amener la fin de cette visite. Que de reproches ne me ferais-je pas dès que je serai hors de cet hôtel ?» Avec un peu de sang-froid, rien n'eût été plus dans les habitudes de Leven que de trouver des choses agréables à dire, même en présence d'une vieille fille, sans doute méchante, mais probablement pas très intelligente. Mais il se trouva qu'il était impossible à Leven de rien inventer. Il avait peur de soi-même. Il avait une bien plus grande peur de Madame de Chastelet. Et il avait une grande peur aussi de Mademoiselle Bérard. Or, rien n'est moins favorable au génie d'invention que la peur. Ce qui augmentait cette difficulté à trouver quelque chose de passable, dont Leven était affligé en ce moment, c'est qu'il jugeait fort bien, et même s'exagérait, le ridicule de l'aridité de son esprit. Il lui vint enfin une pauvre petite idée. « Je serais bien heureux, madame, si je puis parvenir à être un bon officier de cavalerie, car il paraît que le ciel ne m'a pas destiné à être un orateur éloquent dans la Chambre des députés. » Il vit que Mademoiselle Bérard ouvrait ses petits yeux autant qu'il était possible. « Bien, se dit-il, elle croit que je parle politique et songe à faire son rapport. Je ne saurais plaider à la Chambre les causes dont je serais le plus profondément pénétré. Loin de la tribune, je serais tourmenté par la vivacité des sentiments qui enflammeraient mon âme. Mais en ouvrant la bouche devant ce juge suprême, et sévère surtout, auquel je tremblerais de déplaire, je ne pourrais que lui dire « Voyez mon trouble, vous remplissez tellement tout mon cœur qu'il ne lui reste pas même la force de se représenter lui-même à vos yeux. » Madame de Chastelet avait écouté d'abord avec plaisir, mais vers la fin de ce discours, elle eut peur de Mademoiselle Bérard. Les phrases de Leven lui semblèrent beaucoup trop transparentes. Elle se hâta de l'interrompre. « Avez-vous, en effet, monsieur, quelque espérance de vous faire élire à la Chambre des députés ?»« Mon père me laisse toute liberté, madame. C'est un excellent père, et comme je désire cette élection avec la plus vive passion, je ne doute pas qu'il y consente. » « Mais vous êtes, ce me semble, bien jeune, monsieur. Je crains bien que ce ne soit une objection sans réplique. » Leven cherchait à répondre avec modestie sur ses espérances lorsqu'une idée lui vint. Voilà donc cette entrevue que j'avais considérée comme le bonheur suprême. Cette réflexion le glaça, et il ajouta quelques phrases dont la platitude lui fit pitié. Tout à coup il se leva et se hâta de sortir. C'était avec empressement qu'il quittait cet appartement dans lequel l'espérance de pénétrer avait été le bonheur suprême. À peine arrivé dans la rue, il se trouva bien étonné et comme stupide. « Je suis guéri !» s'écria-t-il après avoir fait quelques pas. « Mon cœur n'est pas fait pour l'amour !»« Quoi ? C'est là la première entrevue, le premier rendez-vous avec une femme que l'on aime ?» Mais comme j'avais tort de mépriser mes petites danseuses de l'opéra. Leur pauvre petit rendez-vous me faisait seulement penser à ce que serait un tel bonheur avec une femme que l'on aimerait d'amour. Cette idée me rendait sombre quelquefois dans ces moments si gais, que j'étais fou. Mais peut-être je n'ai point d'amour. Je m'étais trompée. Quel ridicule! Quelle impossibilité! Moi, aimer une femme ultra, avec ses idées égoïstes, méchantes, à cheval sur les privilèges, irritées 20 fois par jour parce qu'on s'en moque. Avoir un privilège dont tout le monde se moque, le joli plaisir. En se disant tout cela, il pensait à Mademoiselle Bérard. Il la voyait devant ses yeux, avec son petit bonnet de dentelle jaune, retenu par un ruban vert fané. Cette magnificence peu propre et en décadence était pour lui comme l'idée d'une masure sale. « Voilà ce que j'aurais trouvé dans ce parti en le voyant de plus près. » Il était à 100 lieues du souvenir de Madame de Chastelet. Il y revint. « Et non seulement je croyais l'aimer, mais je croyais voir clairement qu'elle a pour moi un commencement d'affection. » En ce moment, il eut pensé à tout, avec plus de plaisir qu'à Madame de Chastelet. C'était la première fois depuis 3 mois qu'il se trouvait en présence de cette étrange sensation. « Quoi ? » se dit-il avec une sorte d'horreur. « Il y a 10 minutes qu'en adressant des choses tendres à Madame de Chastelet, j'étais obligé de mentir. Et cela, après ce qui m'est arrivé hier dans les bois du Chasseur Vert, après les transports de bonheur qui depuis cet instant m'ont agité, qui ce matin à la manœuvre m'ont fait manquer 2 ou 3 fois mes distances. Grand Dieu ! Puis-je me répondre de rien sur moi-même ? Qui me l'eût dit hier ? Mais je suis donc un fou, un enfant. » Ces reproches qu'il se faisait étaient sincères, mais il n'en sentait pas moins fort clairement qu'il n'aimait plus Madame de Chastelet. Penser à elle était ennuyeux. Cette découverte dernière acheva d'accabler Leven. Il se méprisait soi-même. « Demain, je puis être un assassin, un voleur, tout au monde. » Je ne suis sûr de rien sur mon compte. » En avançant dans la rue, Leven remarqua qu'il pensait à toutes les petites choses de Nancy avec un intérêt bien nouveau. Il y avait, fort près de la rue de la Pompe, une petite chapelle gothique fondée par un René, duc de Lorraine, que les habitants admiraient avec des transports d'artistes depuis 3 ans qu'ils avaient lu dans une revue de Paris que c'était une belle chose. Avant cette époque, un marchand de fer s'en servait pour y appuyer ses barres de fer. Jamais Leven n'avait arrêté les yeux sur les petites arêtes grises de cette chapelle obscure. Ou, s'il la regardait un instant, bientôt l'idée de Madame de Chastelet venait le distraire. Le hasard, en ce moment, le plaça vis-à-vis de ce monument gothique, grand comme l'une des plus petites chapelles de Saint-Germain-l'Auxerrois. Il s'y arrêta longtemps, et avec plaisir, son attention pénétra dans les moindres détails. En un mot, ce fut une distraction agréable. En examinant les petites têtes de saints et d'animaux, il était étonné à la fois de ce qu'il sentait et de ce qu'il ne sentait plus. Il se souvint tout à coup, avec une vraie joie, que ce soir-là, il y avait poule et concours pour une queue d'honneur au billard charpentier. Dans l'aridité de son cœur, il attendit l'heure du billard avec impatience et y arriva le premier. Il joua avec un vif plaisir, n'eut pas de distraction et, par hasard, gagna. Mais il n'eut garde de s'enivrer. Boire avec excès lui parut ce jour-là un fort sot plaisir. Seulement, par un reste d'habitude, il cherchait à ne pas se trouver seul avec soi-même. Chapitre 25. Tout en plaisantant avec ses camarades, il lui venait des pensées philosophiques et sombres. « Ces pauvres femmes, se disait-il, qui sacrifient toute leur destinée à nos fantaisies, qui comptent sur notre amour. » Et comment n'y compterait-elle pas ? Ne sommes-nous pas sincères quand nous le leur jurons ? Hier, au Chasseur Vert, je pouvais être imprudent, mais j'étais le plus sincère des hommes. Grand Dieu ! Qu'est-ce que la vie ! Il faut être indulgent désormais. Leven eut l'attention d'un enfant pour tout ce qui se passait au billard charpentier. Il examinait tout avec intérêt. « Mais sur quelle herbe avez-vous donc marché ?» lui dit un de ses camarades. « Vous êtes gai et bon enfant ce soir !»« Point bizarre, point hautain, » reprit l'autre. « Les autres jours, » ajouta un troisième, le poète du régiment, « Vous étiez comme une ombre envieuse qui revient sur la terre pour se moquer des plaisirs des vivants. Aujourd'hui, les jeux et les rires semblent voler sur vos traces. » Etc., etc. Tous ces propos assez vifs, car ces messieurs manquaient de tact, ne donnèrent pas à Leven le plus petit sentiment désagréable, ni la moindre idée de se fâcher. À 1 heure du matin, quand il fut seul avec lui-même, « Il n'y a donc au monde que la seule Madame de Chastelet, se dit-il, à laquelle je n'ai aucun plaisir à penser. Comment vais-je me tirer de l'espèce d'engagement où je suis avec elle? Je pourrais prier le colonel de m'envoyer à N faire la guerre de tronçons de choux avec les ouvriers. Il serait impoli de ne plus lui parler de rien. J'aurais l'air de m'être fait un jeu de... Si je vais lui dire avec sincérité qu'à la vue de son abominable petite dévote, mon cœur s'est glacé. Elle me méprisera comme un imbécile ou un menteur et ne me reparlera de la vie. » Mais quoi ? Se disait Leven en revenant sur le principe de sa conduite. Un sentiment si vif, si extraordinaire, qui remplissait ma vie à la lettre, les journées, les nuits, qui m'ôtait le sommeil, qui peut-être m'eût fait oublier la patrie. Arrêté, anéanti par une misère. Grand Dieu, tous les hommes sont-ils ainsi? Ou suis-je plus fou qu'un autre? Qui me résoudra ce problème? Le lendemain, cette aubade de trompette qu'on appelle la Diane dans les régiments réveilla Leven à 5 heures. Mais il se mit à se promener gravement dans sa chambre. Il était plongé dans un étonnement profond. Ne plus penser uniquement à Madame de Chastelet lui laissait un vide immense. « Quoi ? » se dit-il. « Bathilde n'est plus rien pour moi ?» Et ce nom charmant, qui autrefois produisait un effet magique sur lui, ne lui semblait plus différent d'un autre. Son esprit se mit à se détailler les bonnes qualités de Madame de Chastelet, mais il en était moins sûr que de sa céleste beauté, et revint bientôt à celle-ci. Quels cheveux magnifiques, avec le brillant de la plus belle soie, longs, abondants. Quelle admirable couleur ils avaient hier, sous l'ombre de ces grands arbres. Quel blond charmant. Ce ne sont point ces cheveux couleur d'or vantés par Ovide, ni ces cheveux couleur d'acajou que Raphaël et Carlo Dolci ont donné à leur plus belle tête. Le nom que je donnerais à ceci peut n'être pas fort élégant, mais réellement, sous le brillant de la plus belle soie, ils ont la couleur de la noisette. Et ce contour admirable du front, que de pensées dans le haut de ce front, peut-être trop. Comme il me faisait peur autrefois. Quant aux yeux, qui en vit jamais de pareil? L'infini est dans ce regard, même quand il n'est arrêté que par un objet sans intérêt. Comme elle regardait sa voiture au chasseur vert quand nous nous en approchâmes. Et quelle coupe admirable ont les paupières de ses yeux si beaux! Comme ils sont entourés! Son regard est surtout céleste quand il ne s'arrête sur rien. Alors, c'est le son de son âme qu'il semble exprimer. Elle a le nez un peu aquilin. Je n'aime pas ce trait chez une femme. Je ne l'ai jamais aimé chez elle, même quand je l'aimais. Quand je l'aimais, grand Dieu! Mais où me cacher? Que devenir? Que lui dire? Et si elle était à moi? Eh bien, je serais honnête homme, là comme ailleurs. Je suis fou, ma chère amie, lui dirais-je. Indiquez-moi un lieu d'exil, et quelque affreux qu'il soit, j'y cours. » Ce sentiment rendit un peu de vie à l'âme de Leven. « Oui, se dit-il en reprenant son examen critique comme pour se distraire. Tout le nez aquilin aspirant à la tombe, comme dit l'emphatique Chactas, donne trop de sérieux à une tête. Le sérieux ne serait rien, mais les réparties graves, et surtout quand elles refusent, prennent de ce trait un air de pédanterie, surtout vu de 3/4. Quelle bouche! Est-il possible de concevoir un contour plus fin et mieux dessiné? Elle est belle comme les plus beaux camées antiques. Ce contour si délicat, si fin, trahit Madame de Chastelet. Souvent, à son insu, quelle forme charmante prend cette lèvre supérieure qui avance un peu et semble perdre son contour si l'on vient à dire quelque chose qui la touche. Elle n'est point moqueuse, elle se reproche le moindre mot de ce genre, et cependant, à la plus petite expression emphatique, à la moindre nuance exagérée dans les récits de ses provinciaux, comme le coin de sa jolie bouche se relève. C'est pour cela uniquement que ces dames la trouvent méchante, comme M. de Sanréal le répétait l'autre jour chez Mme d'Aucuincourt. Elle a réellement un esprit charmant, rieur, amusant, comme on dirait qu'elle se repent toujours de l'avoir montré. Mais tout ce détail de beauté et d'avantage ne faisait rien pour l'amour de Leven. Il ne renaissait point. Il se parlait de Madame de Chastelet comme un connaisseur se parle d'une belle statue qu'il veut vendre. Après tout, il faut qu'elle soit dévote, au fond. Avoir déterré cette exécrable demoiselle de compagnie le prouve du reste. En ce cas, je l'aurais bientôt vue blâmante, méchante, acariâtre. Et à propos, et les lieutenants-colonels ? Leven resta longtemps sur cette pensée. « Je l'aimerais mieux, » se dit-il enfin avec distraction, « un peu trop avenante pour messieurs les lieutenants-colonels que dévote. Il n'y a rien de pis à ce que dit ma mère. « Peut-être, » continua-t-il du même air, « n'est-ce qu'une affaire de rang ? Depuis 1830, les gens de sa caste se persuadent que s'ils peuvent parvenir à mettre la piété à la mode, ils trouveront les Français plus faciles à plier devant leurs privilèges. Le vrai dévot est patient. » Mais il était évident que Leven ne pensait plus même à ce qu'il se disait à lui-même. À ce moment, un domestique arrivant de Darnay lui remit la réponse de Madame de Chastelet à sa lettre de 7 pages. C'était, comme on sait, 4 lignes fort sèches. Elles le frappèrent vivement. « Je n'ai que faire de me donner tant d'embarras et d'avoir tant de remords parce que je ne l'aime plus. Elle n'en sera point en peine. Voilà l'expression de ses vrais sentiments. » Il savait bien que le premier mot de Madame de Chastelet, au chasseur vert, avait été un désaveu de cette lettre. Cependant, elle était si courte et si vive. Il en resta frappé, et frappé au point qu'il oublia la manœuvre. Son chasseur Nicolas vint le chercher au galop. « Ah, lieutenant, vous allez en avoir une fameuse du colonel !» Leven, sans mot dire, sauta à cheval et galopa. Dans le courant de la manœuvre, le colonel vint à passer derrière la 7e compagnie, où il était en serre-fil. « À mon tour, maintenant !» pensa Leven. À son grand étonnement, aucun mot grossier ne lui fut adressé. « Mon père aurait fait écrire à cet animal-là. » Cependant, la crainte vive de mériter quelque blâme le rendait fort attentif ce matin-là, et peut-être par malice, le colonel fit recommencer plusieurs mouvements où la 7e compagnie se trouvait en tête. « Que je suis fou de me faire centre de tout !» se dit Leven. « Le colonel est comme moi, il aura aussi ses chagrins. » Et s'il ne me gronde pas, c'est qu'il m'a oublié. » Pendant tout le temps de la manœuvre, Leven n'avait pu penser de suite à rien. Il craignait quelque distraction. Une fois chez lui, quand il osa revoir son cœur, il se trouva tout différent à l'égard de Madame de Chastelet. Ce jour-là, il arriva le premier à la pension, quoique l'on ne pût guère se présenter chez les Serpières avant 4h30. Il demanda sa calèche à 4h. Il était mal à son aise. Il alla voir atteler les chevaux et trouva 20 choses à reprendre dans l'écurie. Enfin, ce fut avec un plaisir sensible qu'à 4h15, il se trouva au milieu des demoiselles de Serpières. Leur conversation rendit le mouvement à son âme. Il le leur dit avec grâce. Mademoiselle Théodelinde, qui avait du penchant pour lui, fut fort gaie, et il prit une partie de cette gaieté. Madame de Chastelet entra. On ne l'attendait point ce jour-là. Jamais il ne l'avait vue si jolie. Elle était pâle et un peu timide. Et malgré cette timidité, se dit Leven, elle se livre à des lieutenants-colonels. Ces mots grossiers semblèrent lui rendre toute sa passion. Mais Leven était trop jeune, pas assez fait au monde. Sans s'en apercevoir, il fut rude et nullement gracieux pour Madame de Chastelet. Son amour tenait du tigre, ce n'était plus l'homme de la veille. Les demoiselles de Serpierre étaient fort gaies. Un domestique de Leven venait de leur apporter des bouquets magnifiques qu'il avait fait prendre dans les serres de Darnay, pays célèbre pour les fleurs. Il se trouva qu'il n'y avait point de bouquet pour Madame de Chastelet. On fut obligé de diviser en deux le plus beau. « C'est d'un triste augure, » pensa-t-elle. Pendant toute la joie des demoiselles de Serpierre, elle fut un peu interdite. Ce qu'il y avait de brusque et de peu gracieux dans les regards de Leven l'étonnait. Elle se demandait si, pour conserver son estime et ne pas manquer à ce juste soin de son honneur, sans lequel une femme ne saurait être aimée sérieusement d'un homme lui-même un peu délicat, elle ne devait pas quitter cette maison, ou du moins paraître offensée. « Non, se dit-elle, puisque je ne le suis pas en effet. Dans le trouble où je me trouve, je ne puis manquer à quelque devoir que si je me permets la plus petite hypocrisie. Je trouve qu'il y eut une haute raison à Madame de Chastelet de se parler ainsi, et beaucoup de courage à suivre le parti que montrait la raison. De sa vie, elle n'avait été aussi surprise. Monsieur Leven ne serait-il qu'un fat, après tout, comme on le dit? Et son seul but aurait-il été d'obtenir de moi le mot imprudent que j'ai dit avant-hier? Madame de Chastelet repassait dans sa tête toutes les marques d'un cœur vraiment touché qu'elle avait cru voir. Me serais-je trompée? La vanité m'aurait-elle abusée à ce point? Il n'y a plus rien de vrai pour moi au monde, se dit-elle tout à coup. « Si Monsieur Leven n'est pas un être sincère et bon. » Puis, elle retombait dans de cruelles incertitudes. Elle repoussait avec peine le mot de « fa » que tout Nancy attachait au nom de Leven. « Mais non, je me le suis dit mille fois, et dans des moments où j'avais tout le sang-froid désirable. C'est le tilbury de Monsieur Leven, et surtout les livrées de ses gens qui le font appeler « fa ». Et non son caractère réel, il leur est invisible. Ces bourgeois sentent qu'à sa place il serait fat, voilà tout. Pour lui, il a tout au plus l'innocente vanité de son âge. Il aime avoir de jolis chevaux, de belles livrées qui lui appartiennent. Ce mot « fat » n'exprime que l'envie que ses officiers démissionnaires ont pour lui. Cependant, malgré la forme tranchante de ces raisonnements et leur clarté frappante, en ce moment de trouble, le nom de Fa avait un poids terrible dans le jugement de Madame de Chastelet. Je lui ai parlé 5 fois dans ma vie. Je suis bien éloignée d'avoir une grande connaissance du monde. Il faudrait une étrange confiance en soi pour prétendre connaître le cœur d'un homme après 5 conversations. Et encore, se dit Madame de Chastelet en s'attristant de plus en plus. Quand je lui parlais, j'étais bien plus attentive à ne pas trahir mes propres sentiments qu'à regarder les siens. Il faut convenir qu'il y a quelque présomption à une femme de mon âge de croire avoir mieux jugé un homme que toute une ville. Madame de Chastelet, à cette observation, devint décidément sombre. Leven commençait à la regarder de nouveau avec l'anxiété d'autrefois. Il se dit « Voilà le peu d'importance de mon grade et l'exiguïté de mon épaulette qui font leur effet. De quelle considération peut-on se flatter dans la haute société de Nancy en ayant pour attentif un mince sous-lieutenant, surtout quand on est accoutumé à vous voir donner le bras à un colonel, ou quand celui-ci n'est pas potable à un lieutenant-colonel, ou du moins à un chef d'escadron. Il faut les épaulettes à graines d'épinards. On voit que notre héros était assez sot en faisant ce raisonnement, et il faut avouer qu'il n'était pas plus heureux que clairvoyant. À peine son raisonnement fini, il eût voulu être à 100 pieds sous terre, car il commençait à aimer de nouveau. Le cœur de madame de Chastelet n'était pas dans un état beaucoup plus enviable. Ils payaient tous les deux, et chèrement, le bonheur rencontré l'avant-veille au chasseur vert. Et si les romanciers avaient encore, comme autrefois, l'heureux privilège de faire la morale dans les grandes occasions, on s'écrirait ici « Juste punition de l'imprudence d'aimer un être que l'on connaît réellement aussi peu. Quoi ? Rendre en quelque sorte maître de son bonheur un être que l'on n'a vu que 5 fois ?» Et si le conteur pouvait traduire ses pensées en style pompeux et finir même par quelque allusion religieuse, les sots se diraient entre eux « Voilà un livre moral, et l'auteur doit être un homme bien respectable. » Les sots ne se diraient pas, parce qu'ils ne l'ont encore lu que dans peu de livres recommandés par l'Académie. Avec l'élégance actuelle de nos façons polies, qu'est-ce qu'une femme peut connaître d'un jeune homme correct après 50 visites, si ce n'est son degré d'esprit et le plus ou moins de progrès qu'il a pu faire dans l'art de dire élégamment des choses insignifiantes. Mais de son cœur, de sa façon particulière d'aller à la chasse au bonheur, rien, ou il n'est pas correct. Pendant cette observation morale, les deux amants avaient un air fort triste. Un peu avant l'arrivée de madame de Chastelet, Leven, pour excuser le prématuré de sa visite, avait proposé aux dames de Serpierre du café au chasseur vert. On avait accepté. Après quelques mots de politesse à madame de Chastelet et le récit de la proposition faite et acceptée, ces demoiselles quittèrent le jardin en courant pour aller prendre leur chapeau. Madame de Serpierre les suivit d'un pas plus sage, et madame de Chastelet et Leven restèrent seules dans une grande allée d'acacias assez large. Ils se promenaient silencieusement ensemble, mais aux deux bords opposés de l'allée. « Convient-il à ce que je me dois ?» se disait madame de Chastelet, « de suivre ces demoiselles au chasseur vert, ce qui a l'air d'admettre monsieur Leven dans ma société intime ?» Chapitre 26. Il n'y avait qu'un instant pour se décider. L'amour tira parti de ce surcroît de trouble. Tout à coup, au lieu de continuer à marcher en silence et les yeux baissés pour éviter les regards de Leven, madame de Chastelet se tourna vers lui. « Monsieur Leven a-t-il eu quelque sujet de chagrin à son régiment ? Il semble plongé dans les ombres de la mélancolie. » « Il est vrai, madame, je suis profondément tourmentée depuis hier. Je ne conçois rien à ce qui m'arrive. » Et ses yeux, qu'il tourna en plein sur madame de Chastelet, montraient qu'il disait vrai par leur sérieux profond. Madame de Chastelet fut frappée et s'arrêta comme fixée au sol. Elle ne put plus faire un pas. « Je suis honteux de ce que j'ai à dire, madame, » reprit Leven. Mais enfin, mon devoir d'homme d'honneur veut que je parle. » À ce préambule si sérieux, les yeux de madame de Chastelet rougirent. « La forme de mon discours, les mots que je dois employer, sont aussi ridicules que le fond même de ce que j'ai à dire est bizarre et même sot. » Il y eut un petit silence. Madame de Chastelet regardait Leven avec anxiété. Il avait l'air très peiné. Enfin, comme dominant péniblement beaucoup de mauvaise honte, il dit en hésitant, et d'une voix faible et mal articulée. « Le croirez-vous, madame ? Pourrez-vous l'entendre sans vous moquer de moi et sans me croire le dernier des hommes ? Je ne puis chasser de ma pensée la personne que j'ai rencontrée hier chez vous. La vue de cette figure atroce, de ce nez pointu avec des lunettes, semble avoir empoisonné mon âme. » Madame de Chastelet eut envie de sourire. « Non, madame, jamais depuis mon arrivée à Nancy, je n'ai éprouvé ce que j'ai senti après la vision de ce monstre. Mon cœur en a été glacé. J'ai pu passer quelquefois jusqu'à une heure entière sans penser à vous. Et ce qui pour moi est encore plus étonnant, il m'a semblé que je n'avais plus d'amour. » Ici, la figure de madame de Chastelet devint fort sérieuse. Leven n'y vit plus la moindre velléité d'ironie et de sourire. « Vraiment, je me suis cru fou !» ajouta-t-il, reprenant toute la naïveté de son ton habituel, qui, aux yeux de madame de Chastelet, excluait jusqu'à la moindre idée de mensonge et d'exagération. « Nancy m'a semblé une ville nouvelle que je n'avais jamais vue, car autrefois, dans tout au monde, c'était vous seul que je voyais. Un beau ciel me faisait dire « Son âme est plus pure !» La vue d'une triste maison, si Bathilde habitait là, comme cette maison me plairait. Daignez pardonner cette façon de parler trop intime. » Madame de Chastelet fit un signe d'impatience qui semblait dire « Continuez, je ne m'arrête point à ces misères. » « Eh bien, madame, reprit Leven, qui semblait étudier dans les yeux de madame de Chastelet l'effet produit par ses paroles. « Ce matin, la maison triste m'a paru ce qu'elle est. Le beau ciel m'a semblé beau, sans me rappeler une autre beauté. En un mot, j'avais le malheur de ne plus aimer. » Tout à coup, quatre lignes fort sévères que j'ai reçues en réponse à une lettre, sans doute beaucoup trop longue, ont semblé dissiper un peu l'effet du venin. J'ai eu le bonheur de vous voir. Cet affreux malheur s'est dissipé, et j'ai repris mes chaînes. Mais je me sens encore comme glacée par le poison. Je vous parle, madame, d'une façon un peu emphatique, mais en vérité, je ne sais comment expliquer en d'autres mots ce qui m'arrive depuis la vue de votre demoiselle de compagnie. Le signe fatal en est que, pour vous parler un peu le langage de l'amour, il faut que je fasse effort sur moi-même. » Après cet aveu sincère, il sembla à Leven avoir un poids de 2 quintaux de moins sur la poitrine. Il avait si peu d'expérience de la vie qu'il ne s'attendait nullement à ce bonheur. Madame de Chastelet, au contraire, semblait atterrée. « C'est clair, ce n'est qu'un fat. Y a-t-il moyen, se disait-elle, de prendre ceci au sérieux? Dois-je croire que c'est l'aveu naïf d'une âme tendre ?» Les façons de parler habituelles de Leven étaient si simples quand il s'adressait à madame de Chastelet qu'elle penchait pour ce dernier avis. Mais elle avait souvent remarqué qu'en s'adressant à toute autre personne qu'elle, Leven disait souvent exprès des choses ridicules. Ce souvenir de tromperie habituelle lui fit mal. D'un autre côté, les manières de Leven, l'accent de ses paroles, étaient cherchées à un tel point, la fin de cette harangue avait l'air si vraie qu'elle ne voyait pas comment faire pour ne pas y croire. À son âge, serait-il déjà un comédien aussi parfait? Mais si elle ajoutait foi à cette étrange confidence, si elle la croyait sincère, d'abord elle ne devait pas paraître fâchée, encore moins attristée. Et comment faire pour ne paraître ni l'un ni l'autre? Madame de Chastelet entendait les demoiselles de Serpierre qui revenaient au jardin en courant. Monsieur et madame de Serpierre étaient déjà dans la grande calèche de Leven. Madame de Chastelet ne voulut pas se donner le temps d'écouter la raison. « Si je ne vais pas au chasseur vert, deux de ces pauvres petites perdront cette partie de plaisir. » Et elle monta en voiture avec les plus jeunes. « J'aurais du moins, » pensa-t-elle, quelques moments pour réfléchir. » Ses réflexions furent douces. Monsieur Leven est un honnête homme, et ce qu'il dit, quoique bizarre et incroyable en apparence, est vrai. Sa physionomie, toute sa manière d'être, me l'annonçait avant qu'il eût parlé. Quand on descendit de voiture à l'entrée des bois de Burelvillers, Leven était un autre homme. Madame de Chastelet le vit au premier coup d'œil. Son front avait repris la sérénité de son âge, ses manières avaient de l'aisance. « Il y a de l'honnêteté dans ce cœur-là, » pensa-t-elle avec délices. « Le monde n'en a point fait encore un être apprêté et faux. C'est étonnant, à 23 ans. Et il a vécu dans la haute société. » En quoi Madame de Chastelet se trompait fort. Dès l'âge de 18 ans, Leven n'avait point vécu dans la société de la cour et du faubourg Saint-Germain, mais au milieu des cornues et des alambics d'un cours de chimie. Il se trouva au bout de quelques instants que Leven donnait le bras à Madame de Chastelet, et deux des demoiselles de Serpierre marchaient à leur côté. Le reste de la famille était à 10 pas. Il prit un ton fort gai pour ne pas trop attirer l'attention de ces demoiselles. « Depuis que j'ai osé dire la vérité à la personne que j'estime le plus au monde, je suis un autre homme. Il me semble déjà que les paroles dont je me suis servi, en parlant de cette demoiselle dont la vue m'avait empoisonné, sont ridicules. Je trouve qu'il fait ici un temps aussi beau qu'avant-hier. » Mais avant de me livrer au bonheur inspiré par ce beau lieu, j'aurais besoin, madame, d'avoir votre opinion sur le ridicule de cette harangue où il y avait des chaînes, du poison et bien d'autres mots tragiques. Je vous avouerai, monsieur, que je n'ai pas d'opinion bien arrêtée, mais en général, ajouta-t-elle après un petit silence et d'un air sévère, je crois avoir de la sincérité. Si l'on se trompe, du moins l'on ne veut pas tromper. Et la vérité fait tout passer, même les chaînes, le poison, etc. Madame de Chastelet avait envie de sourire en prononçant ces mots. Quoi donc ? Se dit-elle avec un vrai chagrin. Je ne pourrai jamais conserver un ton convenable en parlant à Monsieur Leven. Lui parler, est-il donc un si grand bonheur pour moi ? Et qui peut me dire que ce n'est pas un fat qui a voulu jouer en moi une pauvre provinciale? Peut-être, sans être précisément un malhonnête homme, il n'a pour moi que des sentiments fort ordinaires, et cet amour-là est fils de l'ennui d'une garnison. C'était ainsi que parlait encore dans le cœur de Madame de Chastelet l'avocat contraire à l'amour. Mais déjà il avait étonnamment perdu de sa force. Elle trouvait un plaisir extrême à rêver, et ne parlait que juste autant qu'il le fallait pour ne pas se donner en spectacle à la famille de Serpierre qui s'était réunie autour d'eux. Enfin, heureusement pour Leven, les corps allemands arrivèrent et se mirent à jouer des valses de Mozart, et ensuite des duos tirés de Don Juan et des Nozze di Figaro. Madame de Chastelet devint plus sérieuse encore. Mais peu à peu, elle fut bien plus heureuse. Leven était lui-même tout à fait transporté dans le roman de sa vie. L'espérance du bonheur lui semblait une certitude. Il osa lui dire, dans un de ces courts instants de demi-liberté qu'on pouvait avoir en se promenant avec toutes ces demoiselles, « Il ne faut pas tromper le Dieu qu'on adore. J'ai été sincère. C'était la plus grande marque de respect que je puisse donner. » M'en punira-t-on ? Vous êtes un homme étrange. Il serait plus poli de vous dire oui, mais en vérité, je ne sais pas ce que je suis, et je donnerais beaucoup à qui pourrait me le dire. Je n'ai commencé à vivre et à chercher à me connaître que le jour où mon cheval est tombé sous des fenêtres qui ont des persiennes vertes. Ces paroles furent dites comme quelqu'un qui les trouve à mesure qu'il les prononce. Madame Chastelet ne put s'empêcher d'être profondément touchée de cet air à la fois sincère et noble. Leven avait senti une certaine pudeur à parler de son amour plus ouvertement, et on l'en remercia par un sourire tendre. « Oserais-je me présenter demain ? » ajouta-t-il. « Mais je demanderai une autre faveur, presque aussi grande, celle de n'être pas reçue en présence de cette demoiselle. » Vous n'y gagnerez rien, lui répondit Madame de Chastelet avec tristesse. j'ai une trop grande répugnance à vous entendre traiter en tête à tête un sujet qui semble être le seul dont vous puissiez me parler. Venez, si vous êtes assez honnête homme pour me promettre de me parler de toute autre chose. » Leven promit. Ce fut là à peu près tout ce qu'ils purent se dire pendant cet après-midi. Il fut heureux pour tous les deux d'être environnés et, en quelque sorte, empêchés de se parler. Ils auraient eu toute liberté qu'ils n'auraient pas dit beaucoup plus, et ils n'étaient pas, à beaucoup près, assez intimes pour ne pas en avoir éprouvé un certain embarras. Leven surtout. Mais s'ils ne se dirent rien, leurs yeux semblèrent convenir qu'il n'y avait aucun sujet de querelle entre eux. Ils s'aimaient d'une manière bien différente de l'avant-veille. Ce n'était plus des transports de ce bonheur jeune et sans soupçon, mais plutôt de la passion, de l'intimité et le plus vif désir de pouvoir avoir de la confiance. « Que je vous crois, et je suis à vous !» semblaient dire les yeux de Madame de Chastelet. Et elle serait morte de honte si elle eût vu leur expression. Voilà un des malheurs de l'extrême beauté. Elle ne peut voiler ses sentiments. Mais ce langage ne peut être compris avec certitude que par l'indifférence observatrice. Leven croyait l'entendre pendant quelques instants, et un moment après, doutait de tout. Leur bonheur de se trouver ensemble était intime et profond. Leven avait presque les larmes aux yeux. Plusieurs fois, dans le courant de la promenade, Madame de Chastelet avait évité de lui donner le bras, mais sans affectation aux yeux des serpillères, ni dureté pour lui. À la fin, comme il était déjà nuit tombante, on quitta le café haut pour revenir aux voitures que l'on avait laissées à l'entrée du bois. Madame de Chastelet lui dit « Donnez-moi le bras, monsieur Leven. » Leven serra le bras qu'on lui offrait, et le mouvement fut presque rendu. Les cors bohèmes étaient délicieux à entendre dans le lointain. Il s'établit un profond silence. Par bonheur, lorsqu'on arriva aux voitures, il se trouva qu'une des demoiselles de Serpillière avait oublié son mouchoir dans le jardin du chasseur vert. On proposa d'y envoyer un domestique, ensuite d'y retourner en voiture. Leven, revenant de bien loin à la conversation, fit observer à Madame de Serpillière que la soirée était superbe, qu'un vent chaud et à peine sensible empêchait le serein, que Mesdemoiselles de Serpillière avaient moins couru que l'avant-veille, que les voitures pouvaient suivre, etc., etc. Enfin, par une foule de bonnes raisons, il concluait que si ces dames ne se trouvaient pas fatiguées, il serait peut-être plus agréable de retourner à pied. Madame de Serpillière renvoya la décision à Madame de Chastelet. « À la bonne heure, » dit-elle, « mais à condition que les voitures ne suivront pas. Ce bruit de roues qui s'arrête si vous vous arrêtez est désagréable. » Leven pensa que les musiciens, étant payés, allaient quitter le jardin. Il envoya un domestique les engager à recommencer les morceaux de Don Juan et des Nozze. Il revint auprès de ces dames et reprit sans difficulté le bras de Madame de Chastelet. Les demoiselles de Serpillière étaient enchantées de cette augmentation de promenade. On marchait tous ensemble, la conversation générale était aimable et gaie. Leven parlait pour la soutenir et ne pas faire remarquer son silence. Madame de Chastelet et lui n'avaient garde de se rien dire. Ils étaient trop heureux ainsi. Bientôt, on entendit les cors recommencer. En arrivant au jardin, Leven prétendit que Monsieur de Serpillière et lui avaient grande envie de prendre du punch, qu'on en ferait un très doux pour les dames. Comme l'on se trouvait bien ensemble, la motion du punch passa, malgré l'opposition de Madame de Serpillière, qui prétendit que rien n'était plus nuisible au teint des jeunes filles. Cet avis fut soutenu par Mademoiselle Théo de Linde, trop attachée à Leven pour n'être pas peut-être un peu jalouse. Plaidez votre cause auprès de Mademoiselle Théo de Linde, lui dit Madame de Chastelet avec enjouement et bonne amitié. Enfin, on ne rentra à Nancy qu'à 9h30 du soir.